D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Yehuda Amichai est né en Allemagne en 1923. Il y portait le nom de Ludwig Pfeiffer. Émigré en 1936 en Palestine avec ses parents, il a pris, ou on lui a donné le nom hébraïque, de Yehuda Amichai. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'engage dans la brigade juive de l'armée britannique, puis dans la Haganah. Il a ensuite participé à la guerre de 1948 ainsi qu'à deux autres guerres, la campagne de Suez de 1956, où Israël se trouvait aux côtés de la France et de l'Angleterre contre Nasser qui venait de nationaliser le canal, et on se rappelle que, sur ordre des États-Unis, les trois ont dû se retirer, ce qui a peut-être été une des pires décisions diplomatiques relatives au Proche-Orient. Amichai a enfin participé à la guerre du Kippour en 1973. Comme tant d'écrivains israéliens, il a fait partie de ces auteurs qui ont été des soldats et combattus pendant des guerres. On n'en avait peut-être pas autant vu depuis la Grèce antique, car nous n'avons pas oublié qu'Échille avait combattu à Salamine et que Socrate avait été soldat, et un soldat extrêmement courageux comme tant de guerres. Le XXe siècle a assassiné beaucoup de soldats et beaucoup de civils, au point que les gens de lettres de l'Occident entier se sont émus, et pendant et après la guerre de 14, quantité de poètes se sont mis à parler de la guerre. Les Anglais, généralement contre, les Français, généralement pour. Et les Américains, là, c'était surtout des romanciers a posteriori. Il y a eu Ernest Hemingway et son roman de la collection Harlequin avec mitraillette, L'adieu aux armes, où un soldat blessé devient amoureux de son infirmière, John Dos Passos avec L'initiation d'un homme 1917, ou encore E.E. Cummings avec L'énorme chambray. Après la guerre de 40, il y a eu moins de littérature guerrière, et encore moins après la guerre du Vietnam, la guerre n'était peut-être plus à la mode. D'une certaine façon, les Israéliens ont pris le relais, eux, qui ont si souvent subi la guerre. Amichai a publié des romans, le premier en 1963, et des nouvelles, mais il nous reste surtout pour ses poèmes. Le premier livre de poèmes qu'il a publié date de 1955. En 1994, 6 ans avant sa mort en 2000, il a été invité à lire un poème par Yitzhak Rabin lors de sa cérémonie de remise du prix Nobel de la paix. Il est aussi le grand poète de Jérusalem au XXe siècle. Quel est le secret professionnel de Yehuda Amichai, poète d'amour en temps de guerre? Je reçois pour en parler un de ses traducteurs français, Emmanuel Moses, qui a choisi et traduit des poèmes d'Amichai dans l'anthologie « Perdu dans la grâce » chez Gallimard. Emmanuel Moses, pour commencer, est-ce que vous voudriez m'expliquer l'origine du nom hébraïque de Amichai?
Ami, mon peuple vit. Amichai, mon peuple vit. Et ça nous introduit au cœur de sa poésie, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a affirmé la vie tout au long de
Alors, il a été éduqué en langue allemande, n'est-ce pas?
Il a été éduqué en langue allemande, mais dans une famille qui était pratiquante, et donc où l'on parlait hébreu, où l'on étudiait, lisait les textes traditionnels. Dans une famille paysanne, ça c'est très important, il le disait lui-même, une famille de, alors je ne sais pas exactement, s'ils étaient marchands de chevaux, comme beaucoup de juifs alsaciens, ou vignerons, enfin c'était, la biographie officielle parle de Würzburg, qui est une grande ville de Franconie, ils avaient une maison, une propriété à la campagne, où ils passaient beaucoup de temps, c'est ce qu'il me racontait, donc il y a un côté chez lui terrien, la vie, voilà, c'est ça, un côté...
Et donc, ils sont partis au moment des lois de Nuremberg, je crois, probablement au bon moment,
en tout cas pour eux. Ils sont partis très tôt, ils sont partis en 35...
Oui, en 35,
ils sont partis en 35, effectivement.
Et donc...
Donc avant la nuit de cristal, oui, c'est ça. Non, oui.
Et donc, il a été éduqué en Israël, en hébreu,
en
évidemment.
Hébreu. Absolument.
Et quelles études a-t-il suivi là-bas?
Alors, il a d'abord suivi des études secondaires, et puis ensuite, à l'université, il a suivi des études, je pense, d'histoire juive et de littérature. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a découvert sa vocation de poète en Égypte, alors qu'il était soldat. Et c'est en Égypte que sa voix de poète hébreu est née.
De quelle façon?
Il a découvert, en fait, la poésie américaine, et notamment T.S. Eliot. Donc il a découvert Eliot et Auden.
Car ce qui était avant lui, c'est-à-dire juste avant la guerre, dans la poésie israélienne, c'était quel type de poésie? Qui n'était pas de la poésie israélienne,
voilà,
évidemment.
Hébraïque, disons. Voilà, la poésie hébraïque, oui. C'était une poésie d'abord écrite principalement par des poètes de Russie, de Pologne, enfin surtout de Russie, d'Odessa, donc qui avaient appris l'hébreu dans un environnement qui n'était pas celui de la langue, ouais. Voilà, de la langue hébraïque, mais du russe plutôt. Certains parlaient yiddish aussi, et donc ils ont affirmé. Enfin, c'était une façon aussi pour eux d'affirmer leur singularité et leur identité juive, leur sionisme. Et ça a été la grande poésie hébraïque du renouveau, si vous voulez. Mais c'était une poésie quand même très marquée encore par par le romantisme européen, par le romantisme nationaliste aussi, type Mickiewicz, etc. Et puis arrive Amichai.
Et c'était qui? C'était des gens comme Bialik, c'est
alors
ça?
Bialik et Tchernyrovski, qui étaient de très très grands poètes. Hein. C'est une poésie qui correspondrait plutôt à la poésie européenne des années 1830-1850, voilà, 1860, disons. Hugolienne aussi, parfois un peu, vous voyez. Très, très belle.
Et donc, Amichai, il y a la première génération qui succède à ça?
Il y a une génération intermédiaire, Nathan Alterman et Shlonsky, et qui étaient aussi des Russes, d'ailleurs. Alors, eux se sont étaient déjà plus ancrés dans la jeune réalité israélienne que leurs aînés. Et donc, c'était un peu ils étaient dans un entre-deux, si
on
vous voulez.
On est à quelle époque, là, à peu près?
Là, grosso modo, eux ont été actifs, disons, entre 1920 et 1950-60, 30-60, voilà. Et puis, voilà, arrive la génération dite de 48, de la guerre d'indépendance, la génération d'Amichai, et Amichai publie effectivement ses premiers poèmes dans un hébreu courant, quotidien, et néanmoins très savant, mais de manière indirecte, implicite, c'est-à-dire que la langue peut sembler vraiment une langue de tous les jours, mais avec des allusions à la Bible, à la liturgie, à la poésie hébraïque du siècle d'or espagnol, du Moyen-Âge, Judas, Lévi, etc., et même à la mystique juive, à la tradition ésotérique et à sa littérature, la Kabbale, etc. Donc, voilà.
Mais vous voulez dire que c'est une poésie religieuse ou une poésie cultivée en disant ça?
C'est une poésie cultivée, mais je dirais naturellement cultivée.
C'est pas de l'érudition.
C'est pas de l'érudition. Il a été nourri depuis son enfance par cette tradition juive, donc il l'a intégrée, il l'a incorporée et elle sourde partout, si vous voulez, voilà. Et en même temps, il prend le parti de certaines manières de désacraliser la langue hébraïque, parce que ça, c'était
et
ça l'enjeu.
De quelle façon ça se fait ça?
Ça se fait en décidant, par exemple, d'écrire dans une langue très simple, qui peut être aussi la langue de communication entre les gens, vous voyez, qui est la langue parlée à son époque par les jeunes autour de lui. Voilà.
Et ça, vous diriez que c'est une influence de ses lectures de poésie américaine et anglaise?
Oui. Donc je pense qu'il a introduit dans la poésie hébraïque, voilà, une espèce d'immédiateté et de simplicité qui lui faisait défaut avant. C'est-à-dire avant, il fallait se mettre sur son 31, si vous voulez, pour écrire. Voilà,
Et ça, ça a été frappant, ça a été remarqué tout de suite.
Ah, ça a été remarqué tout de suite. Ah, ouais. Il a été un peu le chef de file, si vous voulez, de ce mouvement. Après, il y a eu d'autres poètes. Et ça a été son art poétique jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il a été très consistant là-dessus.
Alors, je voudrais, Emmanuel Moses, qu'on reste un peu là-dessus. Moi, évidemment, je ne l'ai lu que, ou pas évidemment d'ailleurs, mais je ne l'ai lu qu'en traduction. Il a d'ailleurs de très bons traducteurs, outre vous, en anglais. Il a été traduit par Ted Hughes, enfin, des poètes.
Absolument.
Très considérable.
Et Michel Eckart en français, voilà, je tenais à saluer
aussi,
son premier traducteur, formidable traducteur.
Ouais. Et dans les traductions françaises, ce qu'on voit de manière très frappante, c'est que c'est un grand métaphoriste. Et parfois, avec des choses très simples. Par exemple, dans un des poèmes que vous avez traduit dans le volume perdu dans la grâce, je voudrais citer quelque chose de très simple et qui pourtant est, à mon avis, une très belle image, qui est le poisson jaune en plastique de mon fils cadet, sourit toujours. Voilà. Quel est l'art de la métaphore particulier à Amichai, lui qui en emploie tellement?
Je pense qu'il avait la métaphore naturelle, ce qui est très très rare, parce que ceux d'entre nous qui sont poètes ou qui essayent de l'être, qui exercent ce métier, ont beaucoup de difficultés à trouver la métaphore juste. Évidemment, la métaphore est au cœur de la poésie depuis toujours. Et chez Amichai, elle sortait naturellement, si vous voulez. Et moi, je me souviens que je l'avais, enfin, ou quelqu'un lui avait posé une fois
vous
la question.
Vous l'avez connu, donc.
Oui, voilà, moi, je l'ai bien connu. On a fait pas mal de tournées, de lectures ensemble. Et alors, il a répondu à une question. Mais pour moi, écrire de la poésie, c'est comme descendre à la boulangerie, acheter mon pain, quoi. Voilà, c'est normal, c'est naturel. Et ces métaphores, tout en étant exceptionnelles, semble avoir été produite sans le moindre effort, si vous voulez, intellectuel. C'était de ce point de vue-là, un magicien, si vous voulez. Elle sortait de son chapeau.
Est-ce que dans la conversation, elle sortait aussi? Est-ce qu'il avait une conversation imagée?
Pas du tout.
Pas du tout.
C'était un vrai paysan, je peux vous dire.
Ah oui,
il était... Il aimait manger, il était assez... Voilà.
Est-ce que vous voulez nous donner un exemple de métaphore, et si possible, dans les deux langues?
Sandales. Les sandales sont le squelette d'une chaussure entière. Un squelette est aussi une âme singulière. Les sandales sont les rênes de mes pieds galopants et les phylactères d'un pied là en prière. Les sandales sont une parcelle de la terre privée que je foule où que j'aille. Les représentants de ma patrie, mon vrai pays. Un ciel pour la petite vermine d'en bas et l'avènement du jour de leur extermination. Les sandales sont la jeunesse de la chaussure et le souvenir de son errance dans le désert. Je ne sais pas quand elles me perdront ou quand je les perdrai, mais elles se perdront, chacune à un autre endroit, l'une non loin de ma maison, entre des rochers et des buissons, et l'autre s'enfoncera dans le sable près de la Méditerranée, comme un soleil couchant face à un soleil couchant. Il y a une autre métaphore qui me revient, mais je ne pense pas avoir traduit le poème, mais je l'avais lu il y a longtemps, où il dit « J'ouvre le frigo et la lumière de l'au-delà m'éblouit ».
Ça donne quoi en hébreu, vous en souvenez?
Non.
En tout cas, ce qui est frappant dans ce que vous venez de lire, c'est outre les images, il y a quelque chose qui a surgi là, c'est son jeu. Ça veut dire que c'est un poète lyrique?
Ah, c'est un poète lyrique, oui. Le jeu lyrique est extrêmement... C'est un poète qui d'une certaine manière, mais ça vaut pour de nombreux poètes et grands poètes qui sont un peu des diaristes aussi. C'est-à-dire qu'un poème, c'est une entrée de journal. Sublimée et sublime, souvent. Et donc, c'est vraiment sa vie. Ça enregistre sa poésie, enregistre sa vie, son existence, les guerres, l'amour...
Oui, dans le volume que vous avez traduit, il y a un journal de Buenos Aires, une partie qui s'appelle
exactement,
Journal de Buenos Aires.
Tout à fait.
Il rappelle un peu pour ça, mais vous me direz si je me trompe, je ne sais pas si ça a eu la moindre influence sur lui, par certains côtés, en étant moins d'ailleurs prophétique, Allen Ginsberg.
Oui.
Cette façon d'utiliser le journal intime et de le transformer.
Tout à fait, oui. Ces poèmes-là, qui sont d'ailleurs le récit d'une relation amoureuse, il en a eu de nombreux, c'était un grand amoureux. Et il ne s'en cache pas dans sa poésie.
Vous l'avez connu à quelle occasion?
J'avais eu le projet d'une anthologie, que j'ai d'ailleurs réalisée, dans le juge de la poésie hébraïque, et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré pour cette anthologie. Puis une amitié, une sorte d'amitié est née.
Il était très populaire en Israël?
Mais très populaire. Chacun de ses livres, et ça fera pâlir d'envie les poètes et les éditeurs français, se vendait à 15 000 exemplaires.
Dans un pays de 6 millions d'habitants,
c'est dire. Dans un pays de 6 millions d'habitants, absolument. C'était chacun, chaque étudiant, chaque lycéen, lycéenne, avait un volume de Yehuda Amichai sur son étagère, dans sa bibliothèque. Beaucoup de ses poèmes ont été mis en musique.
Eh bien, maintenant, Emmanuel Moses, nous allons entendre une chanson dans l'autre langue juive, qui est le yiddish, et c'est une chanson de Dani Delmin qui s'appelle « Tishpait ».
Zishpei, ob ich euch gefinnen. Zishpei, ist dein Liebe gekommen. Mein Welt, wohl gewein, a Pracht mit dir. In nicht, als a Treue. C'est alles capoye for me. Si spät fließen meine Tränen, ich weiß, was ich hab schon verloren. Mein Herz zerbrochene Bein, sei es euch geht, sag mir's es nicht, zu spät.
Emmanuel Moses, je voudrais que, à propos de Amirail, que nous en venions à ce que j'évoquais dans mon introduction, c'est la guerre, car il y a un rapport, puisque non seulement il l'a faite, mais par exemple, il en parle, et je voudrais citer quelques vers de lui pour montrer combien la guerre est prégnante dans sa poésie, et évidemment, hélas, dans ce pays, et voici les vers. « Le bateau qui m'a amené ici fut coulé pendant la guerre. La grange d'Amadia, où j'ai fait l'amour, a brûlé. Le kiosque d'Aïn Gedi a été bombardé par l'ennemi. Le pont d'Ismailia, que j'ai traversé aller-retour au début de tous mes amours, a été mis en pièces. » Et voilà, me semble-t-il, mais expliquez-moi ça, la façon dont il parle de la guerre. C'est-à-dire que ce n'est pas un poète guerrier, ça n'est pas comme pouvaient être certains poètes français de la guerre de 14 que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est toujours une résonance sur l'intime.
Absolument. Il dit quelque part, aucun de mes poèmes de guerre n'est pas en même temps un poème d'amour, et aucun de mes poèmes d'amour n'est pas en même temps un poème de guerre. C'est-à-dire, il le dit autrement, il dit, j'ai toujours parlé d'amour même dans mes poèmes de guerre, et parlé de guerre même dans mes poèmes d'amour. Vous avez tout à fait raison de le souligner, tout est vu par le prisme de l'intime, donc de la transmutation opérée par le monde intérieur et la sensibilité et le regard poétique. C'est assez frappant. Et effectivement, il y a dans ce recueil un long poème qui s'appelle Mes guerres, je crois, où il est qui tient plus presque de la confession que de voilà.
Est-ce que c'est une singularité chez lui, ou est-ce que cette génération-là, justement, des poètes de 48 que vous évoquiez, étaient tous dans cette lignée, c'est-à-dire finalement ils ont fait la guerre et au lieu de la relater, en ont fait une expérience, un creuset d'expérience intime?
Je dirais que ça vaut pour toute cette génération, peut-être à une exception près, mais que chez lui, c'est chez lui que c'est le plus explicite, c'est-à-dire que lui en a les autres ont parlé, ont évoqué la guerre au détour de tel ou tel poème. Chez lui, c'est systématique, c'est-à-dire que tout est transformé en expérience intérieure. Voilà, l'amour, la guerre, les voyages, éclairent les profondeurs, où naît, où surgit la poésie.
Et est-ce que lui-même a pris, comme beaucoup d'écrivains dans le monde entier, en particulier dans Israël, des positions sur la guerre, a pris des positions politiques dans sa vie, a parlé des guerres et des événements politiques du pays en prenant parti pour ceci ou pour cela?
Alors, il l'a fait de manière peut-être moins audible que les romanciers, que certains romanciers, évidemment, on pense à Grossman, à Amos Oz et même Joshua. Il a un long poème qui s'appelle Le village abandonné, où on comprend très bien qu'il s'agit d'un village palestinien qui s'est vidé de ses habitants au moment de la guerre de 48. Donc, son humanisme et sa sensibilité et sa compassion pour le monde, si vous voulez, fait qu'il est tout à fait conscient de la tragédie aussi de l'autre, voilà, qui a frappé l'autre. Ceci dit, je ne dirais pas d'Amirail comme d'autres poètes israéliens, je pense à Dalia Rabikovitch notamment, qu'il a été un poète engagé dans un camp plutôt que dans un autre, dans un camp politique plutôt que dans un autre. Non, pas du tout, pas du tout.
Alors, je dois dire qu'il ne manquait pas d'humour, on l'a peut-être pas assez dit, peut-être que je me trompe, mais voici un vers que je traduis directement d'une anthologie anglaise qui vient de paraître, d'une traduction dans une anthologie aux États-Unis plutôt. La moitié des gens dans le monde aiment l'autre moitié. Et le vers suivant est la moitié des gens dans le monde haïssent l'autre moitié. Est-ce que c'est caractéristique de...
Tout à fait. Il avait beaucoup d'humour. J'avais oublié cet aspect de sa personnalité. Je vous remercie de me le rappeler, parce que il avait, ça transparaît d'ailleurs dans ses poèmes qui sont souvent ironiques, caustiques, drôles, souriants. Voilà. Ses poèmes sont une espèce de sourire un peu amer. Et il était très drôle. Moi, je me souviens de lectures qu'il avait faites à Jérusalem. Il y avait évidemment des dizaines, voire des centaines de personnes qui venaient l'écouter, et il aimait bien raconter des petites histoires, des blagues, des, Voilà, et les gens riaient parce qu'il avait beaucoup d'humour. Oui.
Alors l'autre partie importante et très importante de son œuvre, c'est Jérusalem, puisque d'abord je crois que sa famille s'est établie à Jérusalem quand ils sont arrivés.
Ils sont d'abord arrivés à Petah Tikva, mais ensuite voilà, ils sont installés à Jérusalem, ils sont passés par une ville côtière et puis ensuite ils sont montés à Jérusalem.
Et lui a vécu où durant sa vie ?
À Jérusalem. À Jérusalem. Le plus beau quartier de Jérusalem.
C'est à savoir.
À côté du moulin. Je ne sais pas si vous voyez le moulin de Jérusalem dans une des petites ruelles de la ville nouvelle, mais le plus ancien quartier de la ville juive, en fait, hors les murs.
Donc, c'est aussi le grand poète de Jérusalem. D'ailleurs, aux éditions de l'Éclat, vous avez cité son traducteur, Michel Eckart, tout à l'heure. Il a traduit un volume qui s'appelle « Poèmes de Jérusalem », qui est intégralement consacré à sa ville. Et je voudrais que vous m'expliquiez en quoi il a une singularité en tant que poète de Jérusalem et comment, dans son œuvre, les choses ont pu évoluer. Dans la mesure où Jérusalem a évolué et qui est une ville qui est devenue peut-être plus religieuse et plus violente qu'elle ne l'était quand lui s'y est établi et y a vécu pendant de nombreuses années.
Ça, c'est... Je ne vous le fais pas dire. Si vous voulez, effectivement, c'est le poète de Jérusalem, comme on pourrait dire que Cavafy est le poète d'Alexandrie, ou Saba le poète de Trieste, ou je sais pas, Oranveli le poète d'Istanbul. Et... C'est intéressant parce que il est seul à occuper cette place, si vous voulez. Aucun autre poète n'est le poète de ou la voilà, le poète homme ou femme de Jérusalem ou de bon Tel Aviv, oui.
C'est plutôt des romanciers, non,
à Tel Aviv. Plutôt des romanciers à Tel Aviv, voilà. Bon, Alterman était un peu, donc son aîné était un peu le poète de Tel Aviv, mais pas du tout comme lui. Alors. Comment s'exprime cette passion, affinité, plus, voilà, cette presque fusion avec Jérusalem, alors qu'il était totalement laïque, c'était un juif qui ne pratiquait pas, donc il n'avait pas cet amour mystique de Jérusalem. Mais il avait un amour charnel de Jérusalem, et c'est ça qui est exprimé, qui transparaît dans sa poésie. Les pierres, la lumière, la végétation... la lumière est extraordinaire à Jérusalem. Les femmes de Jérusalem, les femmes qu'il a aimées, les femmes. Voilà. Donc, il avait sa Jérusalem à lui, qui était au cœur de sa géographie intime, si vous voulez. Voilà. C'était Jérusalem était la capitale de sa géographie intime, voilà. Sans enjeu politique, sans portée de jugement sur justement l'évolution, les régressions, les tensions, beaucoup moins que d'autres poètes. Je pense à un de ses contemporains que j'aime beaucoup, Carmi, qui lui a écrit des poèmes au moment des grands attentats qui ont frappé, ensanglanté Jérusalem dans les années 60-70. Lui a beaucoup écrit, cet autre poète, à Mirai jamais. Parce que tout, cette espèce de filtre, si vous voulez, vous l'aviez bien dit, qui transforme toute expérience en monde intérieur. Et du coup, la réalité politique, par exemple, s'éloigne, s'embrume. Voilà.
Est-ce que vous diriez que je me trompe si, pour donner une idée aux gens de son genre de poésie relativement à Jérusalem, il est, vis-à-vis de Jérusalem, ce que Federico Fellini était à Rome ? C'est-à-dire quelque chose, une espèce de poésie un peu rêveuse, gourmande, d'une certaine façon très narcissique, parce que c'est ses expériences intérieures. Est-ce que ça, non sans humour d'ailleurs, je voudrais citer un vers, si vous permettez, quelques vers. Jérusalem est pleine de juifs fatigués, toujours attirés par les souvenirs et les fêtes, comme des ours malhabiles à danser sur leurs pattes. De quoi Jérusalem a-t-elle besoin? Pas d'un maire, mais d'un monsieur loyal avec un fouet à la main pour apprivoiser les prophéties. Donc ça peut être assez félinien, ça aussi,
tout
non?
Tout à fait. Oui, parce que il a effectivement un côté très narcissique, parce que voilà, tout aboutit en fait, voilà, tous ces cours d'eau aboutissent, voilà, à cette espèce d'estuaire qu'il est lui et qui les rassemble tous. Et sa Jérusalem est effectivement une Jérusalem très très idiosyncratique, enfin très voilà, très singulière, qui est une création, en fait, voilà, autant qu'une restitution.
Et est-ce que il a été critiqué pour ça? Est-ce que, par exemple, des religieux ont dit, mon Dieu, quelle étrange façon de parler de cette ville, qui et que, est-ce que... Ou est-ce qu'au contraire, ça a été admis tout de suite et ça a frappé par la manière personnelle qu'il a d'en parler, de s'approprier la ville?
ça a été admis. Alors, les milieux ultra-orthodoxes à Jérusalem, eux, de toute façon, ignorent royalement. Et voilà,
puis ils sont jamais
tout
contents.
Ce qui se fait, voilà. Et l'activité littéraire du pays ne les intéresse absolument pas. Mais c'est un poète qui a quand même assez rapidement fait le consensus, si vous voulez, autour de lui, et qu'on a considéré comme le poète lauréat. Il n'y a pas de poète lauréat en Israël, mais si vous voulez, comme le grand, voilà, comme le... un peu le l'équivalent d'Horace, voilà, ça a été un peu notre Horace à nous, je dirais, parce que là, l'amour, la poésie, la vie, le quotidien, c'est de tous les poètes latins, je pense que c'est Horace qui serait le le plus proche, plus que Virgile, c'est pas du tout un poète, enfin,
mais sans avoir le côté politique d'Horace, alors.
Sans avoir le côté politique, voilà, c'est
est-ce ça. Est-ce que je citais tout à l'heure Rabin qui lui avait demandé de dire des vers pour son Nobel, est-ce qu'il y a eu des tentatives de récupération politique, justement, parce qu'après tout, un poète si populaire qui parle, est-ce qu'il a été courtisé par les uns ou les autres?
Je pense qu'il était au-dessus de la mêlée. Il ne devait pas être aimé par l'extrême droite, qui était moins, heureusement à l'époque, moins forte qu'elle ne l'est aujourd'hui, la droite nationaliste dure. En même temps, du fait de sa participation, de ses expériences pendant les différentes guerres, et puis de ses poèmes justement d'anciens combattants, il était intouchable. C'est-à-dire que il n'a pas été en but à, que je sache, à des campagnes de diffamation, de critique, de quelque ordre que ce soit.
Et 15 ans après sa mort, dans quel état il est, si je puis dire, maintenant?
Je pense qu'il est moins présent et prégnant qu'il ne l'était de son vivant. Vraiment, il occupait le devant de la scène. Néanmoins, ses livres sont toujours, évidemment, disponibles, réédités, enseignés, chantés. Donc, il fait partie maintenant du Panthéon, si vous voulez. Et c'est une figure importante, très importante.
Alors, Emmanuel Moses, pour finir, je voudrais que, précisément, vous nous lisiez un poème d'Amirail, dans l'ordre que vous voulez, mais en tout cas en traduction et aussi en hébreu, pour que nous puissions avoir dans l'oreille la musique originale de ce grand poète.
C'est un poème sur son père. Son père a beaucoup compté pour lui. Et donc c'est un très court poème qui s'intitule « Mon père » en hébreu. « Zecher avi atuf benyar lavan kifrusot leyom avoda kekosem amotsi mikovao arnavot umigdalim hotsi mitoch gufo hakatan ahava Neharot yadav nishpechu letoch maasav atovim » Une espèce d'in memoriam consacré à son père. Et je voulais lire quelques vers, en fait, simplement.
Mais dites-nous en français ce que ça donne, ce poème.
Ah oui, je vais l'improviser parce que je ne suis pas sûr de l'avoir traduit.
Très bien,
voilà. Improviser. Aïe, 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 aïe. Alors, le souvenir de mon père est enveloppé dans du papier blanc comme les tartines pour la journée de travail. Ainsi qu'un prestidigitateur ou un magicien qui tire de son chapeau lapins et tours, lui tirait de son petit corps de l'amour. Les fleuves de ses mains se déversaient dans ses bonnes actions.
Traduit de chic par Emmanuel Moses.
Oui, de chic, voilà, comme vous dites. Et je voulais simplement ajouter ces quelques phrases qui résument bien son art poétique. Dans un poème qu'il a consacré à sa mère, qui s'appelle « Chez ma mère », il dit « Tous mes mots et mes poèmes ressemblent au flot de paroles bien huilées d'un marchand de tapis, d'un maquereau et d'un commis voyageur patelin. »
C'était Secret professionnel, le 201e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel du goût des milliardaires. Réalisation Clotilde Pivin, attachée de mission Daphné Abgral, prise de son Valérie Lavalard, recherchina Simone Afika. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.